Voilà. Eh bien, bonjour à chacun, à ceux que je connais, puis à ceux que je ne connais pas. Et même si les circonstances ne sont pas idéales, je veux parler du fait que votre pasteur est en arrêt maladie. Je suis quand même content de pouvoir être ici parmi vous et de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. En fait, la première partie, c'était presque l'opposé de ce que je vais dire. Parce qu'on a, parlé de la foi, et moi je vais vous parler d'un élément de la foi que souvent on oppose à la foi, c'est-à-dire le doute. Et pour ce faire, je vous propose de me suivre dans une lecture, je n'en ferai qu'une, elle est dans l'évangile de Jean, chapitre 20 de l'évangile de Jean, c'est au verset 19. Donc, c'est après la résurrection. Et si vous avez à peu près en mémoire tous les événements, ben, vous savez comment les choses se sont passées. Jésus a été arrêté, les disciples, c'était la grande débandade. Et puis après, Jésus va se manifester à nouveau, une fois qu'il est ressuscité, auprès de ses disciples. Et dans le chapitre 20, à partir du verset 19, nous lisons « Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur. Jésus vint, il se trouva au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Et le Seigneur leur dit « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Alors les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Et cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois ?» lui dit Jésus. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Thomas, qui est connu même chez ceux qui ne fréquentent pas une église, pour l'attitude qu'il a eue ici, et vous l'avez déjà entendu et peut-être même dit, non mais moi je ne suis comme saint Thomas, c'est ce qu'on dit dans notre langage populaire, je ne crois que ce que je vois. Et c'est effectivement l'attitude que Thomas a là. Mais qui nous permet d'aborder une question, je l'ai dit, sinon tabou, en tout cas une question qui est délicate, c'est celle du doute. Celle du doute qui souvent est mélangée à notre foi. Celle du doute qui est en même temps très mal vécue dans notre propre vie et puis dans la vie de la communauté. Alors, il y a plusieurs raisons à cela qu'on va juste évoquer rapidement. D'abord, il y a le fait que Nous sommes dans un système, dans une société qui a été influencée, c'est juste pour faire savant que je vous dis ça, par ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, et puis par ce fameux Descartes, qui a introduit le doute comme étant une méthode pour pouvoir accéder à la vérité. Et donc, la philosophie des Lumières a mis en premier la raison. Et partant de là, tout ce qui n'est pas rationnel, rationalisé, raisonnable, compréhensible par notre intelligence est écarté. Nous sommes dans ce monde-là, nous sommes dans cette pensée-là, nous sommes éduqués de cette façon-là, élevés de cette façon-là. Et donc, les chrétiens et les chrétiens protestants, et particulièrement les chrétiens protestants évangéliques, ont quelquefois du mal à assumer la tension qu'ils peuvent percevoir entre un élément rationnel, peu importe lequel, et puis ce qu'ils croient, ou ce qu'ils, pardon du jeu de mots, croire. Mais il y a comme une tension, et tension encore plus grande quand on les confronte, par exemple, je pense à nos étudiants, à telle ou telle avancée scientifique, domaine sur la question de la création, ou que sais-je. Il y a des tensions qui sont là entre la foi et la science, qui prétendent tout expliquer. Alors qu'entre parenthèses, la vraie science admet qu'elle sait en fait beaucoup moins de choses qu'elle ne le prétend, et qu'il y a des tas de choses inconnues. Et puis, une autre difficulté pour aborder ce thème, et pour l'assumer même en tant que personne, c'est qu'on a peur d'être jugé, tout simplement. Qu'est-ce que vous penseriez, ou qu'est-ce que vous pensez si l'un de vous disait à l'autre, ou si votre pasteur disait, mais moi, il y a des tas de questions que je me pose. Et plutôt que d'être dans l'affirmation massive, commencer à émettre toutes les questions qu'il se pose. Et auxquelles, bien souvent, il n'a pas de réponse. Et puis enfin, et c'est peut-être par là qu'il faut commencer, c'est que souvent nous confondons le doute et l'incrédulité, qui sont deux choses complètement différentes, mais la frontière entre les deux est poreuse, et on peut vite passer du doute à l'incrédulité, comme on peut aussi rester avec ses doutes et continuer dans une démarche de foi. Alors, il est nécessaire juste de poser rapidement quelques définitions pour dire peut-être, pour qu'on soit bien d'accord, que douter, c'est tout simplement poser des questions. Et qu'il n'y a rien de mal à ce que nous, en tant que chrétiens, nous posions des questions, nous posions des questions. Il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas s'aveugler. Il y a des questions qui sont là. Elles n'ont pas toujours les réponses. Peut-être même qu'elles ont rarement des réponses, mais la question, elle est posée. Et finalement, douter, c'est se questionner face à la difficulté, face à la compréhension de telle ou telle situation, de telle ou telle affirmation qui nous est présentée comme la vérité, c'est tout simplement essayer de mieux la comprendre. Il n'y a pas de crime de lèse-majesté. Il n'y a pas de révolte ou de blasphème contre Dieu. Quand Jésus, par exemple, et je ne prends que cet exemple-là, sur la croix, cite le psaume 22 et dit publiquement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce de la révolte? Bien sûr que non. C'est une question qu'il est légitime de se poser, dont la réponse viendra bien plus tard, mais qui est là, exprime tout simplement son humanité, là, en tant que fils de Dieu sur la croix. Douter, c'est tout simplement poser des questions, exprimer peut-être des incertitudes et vouloir être assuré peut-être qu'on n'est pas en train d'aller sur une mauvaise voie. Alors que l'incrédulité, c'est une position délibérée, qu'on veut définitive, où on refuse d'accorder sa confiance à Dieu. Et le verset qui a été cité tout à l'heure dans la première partie, Je crois, viens au secours de mon incrédulité, l'illustre bien. Je crois et je veux rester dans cette attitude-là, cette attitude de confiance, d'adhésion à toi. Mais elle est tellement fragile. Elle est tellement fragile. Alors venons-en au texte avec ces éléments qui sont dits là. D'abord, soulignons que, et ce n'est pas un hasard, le texte biblique nous rappelle que Thomas était un jumeau. Et je voudrais juste vous annoncer que nous sommes tous les jumeaux de Thomas. Il nous ressemble, nous lui ressemblons. Nous sommes faits de la même pâte, nous sommes faits de la même veine. Alors, dans quel état pouvait-il être ? Moi, je crois qu'une des premières choses, c'est qu'il devait être terriblement frustré. C'est un peu comme si vous êtes un passionné de rugby ou de foot, puis que vous n'avez pas pu voir le match décisif qui a consacré la victoire de votre équipe favorite. Tous vos amis y étaient, mais vous, vous n'y étiez pas. Et vous avez la rage, comme disent les jeunes. Parce que vous avez loupé ce moment-là. Et Thomas, il a loupé cette rencontre avec Jésus. Et sans doute qu'il devait être effectivement un peu frustré. Et puis l'autre raison peut-être, c'est que Thomas était peut-être encore dans la culpabilité, parce qu'il a fait partie de tous ses disciples qui ont laissé Jésus de côté. Il l'a abandonné. Et c'était lourd à porter de se dire « je suis allé du mauvais côté, je n'ai pas tenu mes engagements ». Il était comme ça, Thomas, entre crainte et tremblement, entre le désir de croire et la peur de rencontrer le ressuscité, peut-être. Mais alors pourquoi, quand nous le voyons dans ce texte-là, doute-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je crois que les points que je vais noter sont les points qu'on va retrouver aussi dans notre propre cheminement, dans notre propre réflexion. La première chose peut-être qui fait que Thomas doute, c'est qu'il a oublié, qu'il est amnésique, et qu'il a oublié qui est Dieu, ce qu'il promet, qu'il a oublié les paroles que Jésus avait dites, qu'il a oublié même ce que lui avait dit de Jésus. Parce que c'est Thomas qui a confessé, un des premiers, la messianité de Jésus et sa divinité. C'est Thomas qui, un peu plus tôt dans l'évangile de Jean, va dire « Eh bien, on veut te suivre là où tu vas, mais montre-nous tout simplement le chemin », c'est au chapitre 14. Il avait oublié ce que Jésus était. Et puis peut-être qu'une des raisons du doute, c'était ce que j'ai appelé les fausses croyances que Thomas avait. On les voit, ces fausses croyances, s'exprimer notamment sur cet autre épisode que l'Évangile nous rapporte sur les chemins d'Emmaüs. Les disciples qui sont là, Jésus qui chemine avec eux, je vous remets le texte à peu près en mémoire, et puis Jésus qui ne se dévoile pas, mais qui parle avec les disciples qui sont là, et les disciples à qui il demande « Mais pourquoi êtes-vous si triste? Pourquoi faites-vous la tête ?» Et ils disent à Jésus qu'ils n'ont pas encore reconnu, ben, « Tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé ?» Et ils disent « Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait. » Ils attendaient un autre Jésus que celui qui allait se révéler à eux. Et je crois qu'une des raisons quelquefois que nous pouvons avoir dans nos difficultés, dans notre relation avec Dieu, c'est parce que nous croyons des choses qu'il ne nous a pas promis, que nous pensons des choses qui ne sont pas dans l'Écriture. Quand j'étais plus jeune, il y avait un chant que je ne vous chanterai pas, mais qui disait « Dieu n'a pas promis le ciel sur la terre », etc., etc. Non, il ne l'a pas promis. Ben, il faut s'en souvenir. Et puis, l'autre élément peut-être qui amène Thomas à douter, c'est que ce qui s'est passé heurte son esprit, pour le coup, justement, rationnel. Il a pourtant vu Thomas Jésus ressuscité des personnes. Il l'a vu. Il y a plusieurs résurrections. Il a vu Lazare, le jeune homme de la veuve de Naïm. Il l'a vu. Et pourtant, j'allais dire, il n'est pas encore habitué au caractère extraordinaire de Dieu. Donc pour lui, il y a des choses qui sont encore impossibles. Impossibles. Et alors, l'autre élément peut-être, c'est que Thomas était seul. Seul. Les autres disciples ne sont pas forcément dans la meilleure situation, puisque le texte nous dit qu'ils ont peur. Mais ils sont quand même là ensemble. Et ils peuvent échanger, ils peuvent peut-être s'encourager mutuellement, confronter leur idée. Lui, Thomas, était resté seul dans son coin, ruminant toutes ses idées, ruminant toutes ses déceptions. En fait, que veut Thomas ? Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Il veut la même chose que les autres, mais il le veut de façon personnelle. Ça veut dire que sa foi ne peut pas s'appuyer seulement ou simplement ou uniquement sur le discours que ses amis lui ont fait. Il a besoin d'une rencontre personnelle. Personnelle. C'est à lui de faire le pas. C'est à lui de se confronter avec le ressuscité. C'est à lui de voir les signes de la résurrection. C'est à lui. Vous savez, quelquefois, on pense que le témoignage que nous apportons va convaincre les gens, mais l'Écriture ne nous dit pas ça. Elle nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est la rencontre donc personnelle entre X ou Y et avec Jésus. Et Thomas veut ça, tout simplement. Il a besoin de se faire sa propre opinion, de penser, de croire par lui-même. Et c'est le problème des enfants de chrétiens, j'ouvre juste une parenthèse, qui sont dans une voie, j'allais dire toute tracée. Les parents, ils ont essayé de les habituer. Il y a eu quelquefois des scènes épiques le dimanche matin pour leur dire « Allez, tu dois venir !» Enfin, vous connaissez, ou vous avez connu, ou vous vivez ça encore. Et ce n'est pas que nos enfants ou nos adolescents sont contre, mais ils ont nécessairement besoin aussi, eux, personnellement, de se confronter au Seigneur. La foi de papa et maman, c'est bien. Ça les a préservés de bon nombre de choses, et encore, pas toujours. Mais il faut qu'à un moment ou à un autre, ils fassent cette démarche personnelle. Je ne crois pas parce que mon père ou ma mère croyait. Je crois parce que je crois. Et alors à ce moment-là, je peux chanter de plein poumon le beau cantique qu'on a chanté tout à l'heure, « Tel que je suis, sans rien à moi ». Je viens, Seigneur, je viens à toi. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, comme on le dit aussi, à bon entendeur, salut. Alors, comment Jésus se comporte avec lui ? Jésus aurait pu arriver en lui disant, écoute, Thomas, tu me désespères. Tout ce qu'on a fait ensemble, et tu en es encore là. Jésus ne fait pas comme ça. Mais, en même temps, il y a quelque chose qui m'a surpris et où je ne comprends pas Jésus. Mais enfin, je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. C'est qu'il se fait attendre, Jésus. Il laisse passer une semaine avant de revenir voir les disciples et donc de voir Thomas. On aurait pu imaginer, puisque Jésus sait tout, qu'il serait dit, bon, allez, Thomas, il faut arrêter que je le laisse patauger dans son marasme et je vais aller le voir, avoir un entretien personnel avec lui, etc. Non, non, il attend une semaine. Bon. Quand j'ai réalisé ça, j'ai pensé à ce texte qui dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais c'est un texte, je trouve, compliqué à vivre. D'attendre en silence, c'est-à-dire sans rien dire, c'est pourtant ce qui nous est demandé. Ça veut dire que la réponse de Dieu n'arrive pas quand nous le voulons. Elle arrive quand il le veut. Et quelquefois, elle arrive longtemps après. Mais elle arrive. Et entre-temps, il nous est dit d'attendre en silence. Il se présente. Et la première chose qu'il fait, c'est de les saluer. Alors pour nous, ça paraît banal. Mais la salutation, c'est de Jésus, c'est ce mot qu'on connaît tous en hébreu, shalom. Mais c'est un mot qui est lourd de sens. C'est la paix. Je vous donne ma paix, je t'amène la paix. Je ne viens pas avec du reproche, je ne viens pas avec ma suffisance. Je t'amène la paix, je t'amène de la bienveillance. Je viens pour t'apaiser et pour te rétablir dans ton ancien état. Je viens pour renouveler ou pour augmenter ta confiance. Et alors, vous l'aurez remarqué, peut-être, mais Jésus va reprendre les mêmes mots que Thomas. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que même si Jésus était physiquement absent quand Thomas a discuté avec ses collègues, Jésus savait. Jésus savait. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Jésus sait mes colères. Jésus sait mes questions. Jésus sait mes déceptions. Jésus sait ma misère. Jésus sait mes galères. Et quand il vient, il les renomme juste pour me dire « Mais je sais tout ça. » Alors avance. Mets tes mains sur les signes de ma souffrance. Mets tes mains. Il ne fait pas de reproches. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait notre humanité, il sait notre finitude, il sait nos limites. Simplement, il lui montre la direction qu'il doit prendre. Et la direction qu'il doit prendre, c'est justement de regarder à lui, c'est-à-dire à Jésus. De regarder à la croix, de regarder à cette œuvre qui est fondatrice pour nous. Les doutes que Thomas avait le conduisent maintenant face au crucifié, ressuscité. Et c'est là que tout se joue. Et c'est là qu'il va devoir maintenant se positionner. Mon Seigneur, et mon Dieu. Voilà la réponse que Thomas apporte, c'est Thomas qui l'apporte, à ses propres questions, à ses propres doutes. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Dieu. Et d'une certaine façon, au risque d'être simpliste, tout est résolu. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je te fais confiance. Je vais te suivre. J'avance avec toi. C'est ce que Jésus lui demande à Thomas. C'est ce que Jésus nous demande à nous, tout simplement. Alors, on va dire de croire, mais croire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'adhérer. Alors, il y en a certains parmi vous qui sont membres de je ne sais trop quelle association. Mais déjà, peut-être membres de l'association cultuelle de l'Église, ou que sais-je encore. Ils ont adhéré. Adhérer, c'est finalement se coller à, faire corps à. Et notre relation avec le Seigneur, c'est ça. Croire, c'est ça. C'est finalement adhérer, s'accrocher à Jésus et essayer de marcher avec lui jusqu'au bout. En acceptant qu'on ne comprenne pas tout. En acceptant qu'il y a des choses qu'on ne comprendra même jamais, mais en acceptant que celui qui conduit notre vie sait ce qu'il fait et sait où il va, et donc que nous pouvons lui faire confiance. En fait, notre vie avec le Seigneur, c'est un peu comme un tandem. J'en ai fait un tout petit peu dans ma jeunesse. Et j'ai été aussi bien devant que derrière. Mais alors, qu'est-ce que c'était compliqué d'être derrière ? Parce qu'on ne peut rien faire. Il faut pédaler, oui. Mais on a envie de tourner, mais non, on ne peut pas. C'est celui qui est devant qui tourne. Mais c'est ça, notre relation avec Dieu. C'est ça, notre relation avec le Seigneur. Je voudrais aller à droite, oui, mais non. Lui devant, il conduit dans une direction ou dans une autre. Alors, terminons peut-être en essayant de dire deux, trois choses pratiques par rapport à notre façon de gérer nos doutes, c'est-à-dire nos questions. La première, c'est d'abord, assumons, n'ayons pas peur. N'ayons pas honte. Oui, nous avons des questions. Et là, je ne sais pas si j'ai une bonne nouvelle ou pas, mais celui ou celle qui est à côté de vous a probablement les mêmes questions que vous. Les mêmes questions que vous. Donc oui, il y a des questions. Ne cherchons pas à les masquer, ne cherchons pas à les ignorer, ne cherchons pas à les refouler. Et alors à ce moment-là, oui, confessons tout simplement la petitesse de notre adhésion. Je crois, mais viens au secours, Seigneur. Hein ? Parce que cette question qui est là me pèse tellement. Elle m'empêche tellement de voir tout simplement ce qu'il y a à voir ou de continuer le chemin. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Deuxièmement, ne laissez pas Satan vous isoler. Alors, je ne parle pas spécialement ou uniquement de la fréquentation de la communauté chrétienne, mais je parle déjà de notre rapport personnel avec Dieu. Dites à Dieu vos questions. Si vous avez besoin de modèles, regardez le livre des psaumes. Il est rempli de questions, d'interrogations, certains diront même de révoltes des psalmistes contre Dieu, vis-à-vis de Dieu. Si Dieu est un Dieu de vérité, et il l'est, il accepte que nous lui parlions en vérité. Prenez le livre de Job, c'est le même topo, incompréhension et question, et in fine réponse de Dieu. Donc ne laissez pas, ne vous isolez pas, parlez avec Dieu, et puis peut-être choisissez quelqu'un avec qui vous pourrez dire tout simplement, mais ça, avec ça, je lutte. Et si la personne vous répond tout de suite en disant « mais non, prie, ça ira mieux », vous avez choisi la mauvaise personne, le mauvais interlocuteur. J'ai peut-être dit une bêtise là. Troisièmement, gardez à l'esprit la façon dont Dieu agit, dont Dieu a agi dans votre histoire déjà, dont Dieu agit dans l'histoire du monde, la façon dont l'Écriture nous le rapporte. Vous savez cette parole, « L'Éternel était ici, on ne le savait pas ». Si l'histoire s'était arrêtée avant, c'était un fiasco. Mais là, maintenant, le prophète peut dire « Ah, mais Dieu était ici finalement ». Donc, gardez présent à l'esprit la façon dont Dieu agit dans l'histoire, dans votre histoire, en se souvenant que pour les impatients que nous sommes, eh bien c'est peut-être difficile, mais Dieu prend son temps. prend son temps. Mais si l'on en croit sa parole, il fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Et ça, ça ne s'invente pas, mais c'est l'autre aspect. Nourrissons notre foi par la parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas compliqué. C'est comme ça que ça marche. C'est le carburant de notre propre foi. Et puis, dernier point, qui pourrait peut-être résumer l'ensemble. Acceptons une bonne fois pour toutes que nous ne maîtrisons pas tout. Acceptons une bonne fois pour toutes que nous voyons à vraiment court terme, mais que Dieu voit les choses beaucoup plus dans la globalité et dans l'ensemble. Acceptons une bonne fois pour toutes que nous sommes des aveugles qui parlons de la lumière, mais que Dieu, lui, est lumière et qu'il sait tout. Alors, si le cantique que nous avons chanté tout à l'heure, tel que je suis, en proie au doute à chaque instant, nous le faisons nôtre, eh bien, la route va être belle, bonne, difficile sans doute à un moment ou à un autre, mais nous mènera dans le calme et dans la confiance jusqu'au port. En fait, j'ai lu quelque part quelqu'un qui a dit, et je termine avec cette phrase, « J'ai arrêté de croire en Dieu. Maintenant, je ne crois qu'en Dieu. » Vous avez entendu la nuance ? J'ai arrêté de croire en Dieu. Maintenant, je ne crois qu'en Dieu. C'est ce qui nous est demandé. Amen. Je vous propose de prier ensemble. Seigneur, pour dire que nous avons besoin de toi et pour te remercier parce que toi, tu sais de quoi nous sommes faits. Tu es celui qui sonde nos cœurs et nos reins. Tu es celui qui sait où nous en sommes. Et tu es celui qui a même de prendre en compte toutes nos interrogations, toutes nos questions, tous nos doutes finalement. Seigneur, tu ne nous refuses pas, mais tu nous acceptes comme nous sommes. Et la simple prière que nous pouvons faire ensemble, c'est que tu mettes en nous toujours plus ta lumière et ta flamme, pour que nous soyons de plus en plus conformes à l'image de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce que tu veux nous faire. Amen.